Québec en musique. Soyez des nôtres chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 101.5 Montréal.
CIBL 101.5 Montréal.
Vivre Montréal. Montréal.
Alors, ici c'est IBL. On entre en onde bientôt. Dans 5 minutes.
CIBL 101.5 au cœur de Montréal.
C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vers la rive sud, congestion depuis Turcot. Parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
Ah, cool. J'ai de la gym.
Parce que la 132 demeure encore occupée.
Il est 9h.
CIBL. 101.5.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le mardi 26 mars et ici Charline Caro, votre animatrice pour bien débuter la journée. Et aujourd'hui, on reçoit nos chroniqueuses avec Flore Morel de Westgaver pour les enjeux d'immigration et Béatrice Grandhay pour le reportage. Et en entrevue, ce sera le Centre de prévention du suicide de Montréal. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, le gouvernement fédéral va fournir 17 millions de dollars pour augmenter la capacité ferroviaire du port de Montréal. Une quatrième voie devrait être créée sur le pont ferroviaire Pie-9 dans le but de diminuer le transport par véhicule lourd. Selon le ministre des Transports Pablo Rodriguez, cela permettrait de fluidifier le transport et de lutter contre la crise climatique. Et ensuite, Montréal Campus, le journal indépendant des étudiants et des étudiantes de l'UQAM, lance une campagne de financement. L'objectif serait l'achat de matériel audiovisuel alors que le média doit composer avec un budget limité. Caméras, trépieds et micros seront acquis pour fournir du contenu journalistique de meilleure qualité. La plateforme de dons est à retrouver sur fondation.ucam.ca. On continue de notre côté sur CIBL avec l'entrevue des porte-parole du Centre de prévention du suicide de Montréal. Je reçois ce matin les responsables et porte-parole du Centre de prévention du suicide de Montréal avec Sylvie Boivin, directrice générale du CPSM, et Fred Waddell, formateur. Bonjour à tous les deux.
Salut.
Le Centre de prévention du suicide de Montréal, le CPSM, c'est un organisme qui propose différents services aux personnes en détresse suicidaire, à leurs proches, mais aussi aux personnes endeuillées. Pour commencer, pourquoi un tel organisme existe?
C'est important de dire que l'organisme existe depuis maintenant 40 ans et il existe évidemment pour répondre à une spécificité, à des personnes qui sont en détresse, pour prévenir le suicide et soutenir les personnes, les proches et les personnes qui ont malheureusement perdu quelqu'un par suicide dans leur vie.
Vous intervenez donc tout d'abord auprès des personnes suicidaires. Comment on pourrait définir une personne comme telle?
Bien, une personne qui a des idées suicidaires. On essaie d'éviter l'étiquette là, de personne suicidaire. On va vraiment parler de la personne qui a des idées suicidaires. Donc, est habitée par l'idée de vouloir mourir. Souvent, on parle de quelqu'un qui veut aller vers la mort, mais nous autres, on parle plus de quelqu'un qui voudrait arrêter de souffrir. Fait que quand on parle de quelqu'un qui a des idées suicidaires, on va parler de quelqu'un qui a beaucoup de souffrances accumulées. Et nous, dans le fond, c'est notre travail, c'est d'aller essayer de diminuer ces souffrances-là, de faire en sorte que la personne se sente écoutée aussi et accompagnée là, pour les épreuves qui s'en viennent.
Vous parlez de signes de détresse émis de manière plus ou moins perceptible par la personne qui a des idées suicidaires. Quels sont ces signes?
Il y en a beaucoup. Moi, une des choses que j'aime dire, c'est on sous-estime des fois l'importance de tout ce qui est les échanges au niveau des informations verbales. Il y a beaucoup de messages qui sont envoyés. Tu sais, on pense à quelqu'un qui pourrait avoir des idées suicidaires en disant « Ah, ben il va dire « je veux me suicider », mais c'est souvent beaucoup plus subtil que ça. Il va avoir beaucoup de messages indirects, tu sais, comme genre « je suis tanné, je suis tabou, tu sais, j'aimerais ça que ça soit autrement, ah, me semble que ça serait mieux si je ne me réveillerais pas demain ». Tu sais, c'est beaucoup de messages indirects comme ça, puis c'est bien de les prendre en considération, parce que ces signes-là, des fois, passent inaperçus, parce qu'on va se le dire, on est quand même bombardé de ce genre de messages-là dans une journée. Mais pour quelqu'un qui a des idées suicidaires, c'est un peu des petites perches qui sont envoyées de demandes d'aide. C'est pas tout le monde, évidemment, qui a ce genre de discours-là qui pense nécessairement au suicide, sauf que c'est des petits signes qui sont à prendre en considération. Les signes plus connus aussi au niveau de la dépression, tu sais, quelqu'un qui va avoir là, des signes et symptômes plus liés à un état d'esprit dépressif. Il y a aussi des gens qui vont se mettre à parler de suicide comme ça ou à parler de la mort. Puis, coudonc, tu sais, comme ça sort de où, ça? Fait que l'idée, c'est d'être attentif à ces signes-là. Et dans les autres, c'est les changements de comportement. Fait que c'est souvent les proches, dans le fond, qui vont se rendre compte que, ah, la personne, elle a des habitudes qui sont différentes. Peut-être que ça devient inquiétant. Quelqu'un qui consomme un peu plus ou qui commence à consommer. Ou qui change de substance là, privilégiée. Fait que ce genre de petits changements-là, quand les proches en rendent compte, là, ils pourraient peut-être lever l'œil un peu et dire ouais, « qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Je vais aller regarder ça puis peut-être en discuter avec la personne. »
Oui, justement, vous parlez des proches. Ils ont un rôle essentiel, j'imagine. Vous les listez, tous ces signes sur votre site. C'est pour sensibiliser la population à prendre soin les uns des autres?
C'est souvent la première personne, en fait, qui va être consciente du changement de comportement, comme Fred l'amène. Commence à donner du matériel. Puis on pense souvent que la personne qui a pris la décision, qui souhaite, on parle d'un souhait, là, mais ce n'est pas un vrai souhait, là, c'est vraiment l'arrêt de souffrance, comme Fred le disait, on pense qu'il va être super triste, super déprimé, mais pas nécessairement, parce que parfois, il est dans un autre état d'esprit. Alors, il faut vraiment prendre les perches qui sont tendues. Ah, tu as donné ce jeu vidéo-là alors que tu jouais tout le temps. Donc, c'est d'oser poser ces questions-là. Et les proches, des fois, ne savent pas comment le faire. Alors, c'est sûr que les intervenants au Centre de prévention du suicide, leur travail, c'est justement d'accompagner les proches quand ils ont des inquiétudes. Alors, autant que les personnes qui ont des idées suicidaires peuvent nous appeler, autant que les proches, famille, amis, collègues à l'emploi peuvent téléphoner au centre et dire... C'est drôle, j'ai comme un feeling, cette personne-là n'est pas comme ça d'habitude, puis là, oups, tout à coup, elle est comme ça. Qu'est-ce que je peux lui dire? Alors, nous, on va vraiment accompagner les proches dans cette situation-là.
Moi, dans le fond, les appels qu'on reçoit, puis auxquels moi je réponds aussi, là, mes appels préférés, c'est les appels des proches. Parce que quand on parle de prévention au niveau du suicide, on a des gens qui s'inquiètent pour d'autres, puis quand ils nous appellent, mais ça nous permet des accompagner dans leurs inquiétudes, des valider aussi là-dedans. Tu sais, ah, je suis pas trop sûr si j'appelle à la bonne place. Fait que, tu sais, on prend le temps avec eux autres, puis ensuite de ça, on j'espère en tout cas qu'on réussit à les rendre un peu plus confortables pour aller discuter avec la personne pour laquelle ils s'inquiètent. La prévention du suicide là, c'est la partie qui est vraiment super intéressante de notre travail. Tu sais, c'est un sujet qui est super délicat, qui est dramatique. Hein, on entend parler souvent des choses là, qui sont vraiment moins agréables, comme par exemple les décès par suicide. Par contre, la prévention du suicide, là, c'est rempli de belles histoires.
Mais c'est pas du tout un travail morbide, quelque chose de lourd à porter.
Il y a des événements plus difficiles à passer au travail, mais je vous dirais que la majorité de notre temps, on va vraiment travailler pour faire en sorte que les gens vivent des belles histoires. Mmh. Puis ces histoires-là, on les entend pas parler. Tu sais... un exemple que j'aime donner, c'est, mettons, une personne de certain âge qui vient de perdre sa femme depuis quelques années, qui se retrouve plus seule. Puis là, tout d'un coup, il commence à avoir des idées noires, des idées suicidaires. Là, il y a quelqu'un qui s'inquiète pour ce monsieur-là, puis qui décide de nous appeler ensemble. Puis là, en force de discuter avec lui, il dit, ben moi, j'aimais ça jouer aux cartes. Puis là, je joue plus aux cartes. Ma femme est décédée. Ah, OK, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais? Puis finalement, en faisant une petite recherche avec le 2-1, qu'on aime beaucoup, on fait une petite recherche, puis on se rend compte qu'il y a un club social pour personnes âgées pas très loin de chez lui. Puis là, il y a un club de cartes. Ah, ben tabarouette! Fait que, tu sais, la personne... Là, c'est sûr que je mets cette histoire-là avec des petits oiseaux, là. Mm-hmm. Mais le monsieur sort de son isolement, il commence à jouer aux cartes, il rencontre de nouvelles personnes. Puis ça, on n'entend pas parler de cette histoire-là. Mais par contre, ce qui a initié ça, c'est le fait qu'un proche s'est inquiété pour ce monsieur-là. Ils ont décidé de nous appeler ensemble et le positif a déboulé. Ça, on n'entendra jamais parler dans les journaux, mais je vous assure que c'est ce genre d'histoire-là qui se passe à tous les jours. Oui. Puis moi, j'en suis fier de participer à cette prévention du suicide-là. De cette façon-là.
Fait que pour les proches, vous ressentez vraiment l'impact que vous pouvez avoir.
Oui, oui. Autant soulagement au niveau des proches que des gens qui ont des idées suicidaires. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'aime ça qu'on puisse venir en fond sur ce genre de tribune-là. Merci CBL. de nous permettre, dans le fond, d'inviter ces proches-là qui s'inquiètent pour quelqu'un, de ne pas hésiter à nous appeler. On va coacher un peu, tu sais, on va prendre le temps vraiment de les accompagner là-dedans, prendre les meilleures décisions possibles, puis on va vraiment être là pour vous autres. Là.
Si je fais du pouce sur ce que Fred dit, il n'est pas rare de rentrer dans la salle intervention, puis sachez que toutes les interventions sont confidentielles chez nous, mais il n'est pas rare de rentrer puis d'entendre rire l'intervenant avec la personne au bout du fil, alors que l'image qu'on se fait, c'est que c'est noir tout le temps, hyper triste, tout le monde pleure. Évidemment qu'il y a des histoires dramatiques, puis des fois, c'est difficile de travailler avec des personnes qui sont en détresse, puis essayer de trouver l'espoir, de susciter l'espoir dans ce moment de détresse-là. Mais moi, c'est pas rare que je rentre puis que j'entends l'intervenant rire avec la personne au bout du fil parce que là, ils viennent d'accrocher sur quelque chose qui ramène ou qui ravive l'espoir. Puis ça, c'est super beau de voir ça. Alors, Nous, notre travail, c'est de diminuer la crise, parce que souvent, les personnes qui nous appellent sont en crise, ou de rassurer le proche. Alors, le proche, après, se sent plus confiant. Donc, il y a comme un échange un peu plus, je dirais, calme, reposé, relax de la détresse qui était là juste au début de l'appel. Puis, oups, on finit l'appel avec « Écoute, je suis encore là, n'hésite pas à nous rappeler, ça va nous faire plaisir. Puis, s'il te manque des informations, je suis toujours là. » Alors, ça rassure énormément, je trouve, l'idée de dire, que Fred amène, de dire aux proches « N'hésitez pas à appeler. » Même avec la personne qui a des idées noires, qui ne va pas bien en ce moment, c'est le fun de voir ce travail-là de collaboration entre les proches et la personne qui vit la détresse.
Ouais, c'est important de souligner tout cet aspect positif auquel on ne pense pas forcément quand on pense au centre de prévention du suicide. Fred, vous parliez des personnes âgées. Est-ce qu'il y a des populations plus vulnérables que d'autres de penser au suicide?
C'est bien que tu poses la question de cette façon-là parce que statistiquement, dans le fond, les décès, on va parler plus des hommes plus âgés, 55 en montant. Par contre, quand quelqu'un, on pense à des gens qui ont des idées suicidaires, là, on va y aller plus avec les jeunes. Mais ils ne décèdent pas nécessairement par suicide. C'est ça la nuance, dans le fond, au niveau statistique. Mais c'est des gens qui vont souvent être plus hospitalisés à cause qu'ils ont des idées suicidaires ou qui ont fait une tentative de suicide. Puis là, à ce moment-là, on va parler beaucoup des jeunes femmes. 14, 25, là, dans ces eaux-là, il y a un grand taux d'hospitalisation. Donc, les jeunes filles vont aller à l'hôpital parce qu'ils ont des idées suicidaires. Et puis, récemment aussi, on a eu l'occasion là, de participer à notre colloque, notre premier colloque du CPSM. Puis, on a eu un conférencier qui nous a vraiment amené des nouvelles données par rapport à la communauté trans, queer. Puis ce qu'on a su, c'est qu'une personne sur deux peut avoir des idées suicidaires, ce qui est énorme. C'est pas parce qu'on a des idées suicidaires qu'on est à risque nécessairement de passer à l'acte. Par contre, de savoir ça maintenant, je vous dirais que moi, ça change ma perception et j'ai envie d'être plus présent pour aider cette communauté-là, parce qu'une personne sur deux, c'est énorme. Ouais. Fait que, tu sais, quand on dit qui est plus susceptible de penser au suicide, bien, il y a des populations comme ça. Puis ça fait en sorte que si on est conscient de ça, bien, dans les messages indirects que je parlais tantôt, bien, ça nous permet peut-être d'identifier plus rapidement « Ah, j'aurais envie que cette personne-là puisse discuter avec quelqu'un qui est un professionnel, qui va être capable de nous aider là, à traverser les épreuves qui s'en viennent. »
Je pense qu'on peut parler des facteurs de vulnérabilité, évidemment. Oui. Chaque personne qui compose avec une multitude de facteurs de vulnérabilité peut être exposée ou avoir des idées suicidaires. Puis la force du CPS, c'est justement, comme sa mission est 100% dédiée à la prévention du suicide, on reste alerte sur comment on peut adapter notre façon d'intervenir, nos formations, notre contenu. Alors, évidemment, les populations jeunesse, les populations aînées, les populations hommes, qui sont une surreprésentation, les populations LGBTQ2IA+, c'est les personnes en situation d'itinérance, c'est quand même des populations avec lesquelles nous, on décide de développer des initiatives qui répondent spécifiquement à ces populations-là, bien qu'on répond à la population générale. Notre mandat est montréalais, donc on répond à tous les Montréalais qui appellent, mais on a quand même la possibilité, nous, de se pencher sur qu'est-ce qu'on peut adapter pour mieux intervenir auprès de populations très spécifiques.
Oui, justement, vous avez un service téléphonique pour les personnes en détresse notamment. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez une sorte de plan d'action en fonction des personnes qui vous appellent? Fred, je sais que tu interviens au téléphone. Comment ça se passe?
Tout d'abord, on essaie d'avoir un accueil inconditionnel. C'est super important pour nous, dans le fond, que la personne nous appelle, elle est dans l'état qu'elle est à ce moment-là. Et on est là, présent, pour répondre à cet appel-là. Fait que dans cet accueil inconditionnel-là, on va vraiment laisser la place à la personne, dans le fond, de vivre ce moment-là. Des fois, il y en a qui nous appellent pour la première fois. Ils savent pas exactement s'ils sont au bon endroit. Fait que attendez-vous, tu sais, quand vous nous appelez, qu'on vérifie effectivement si vous êtes au bon endroit. Puis quand la personne, finalement, elle a des idées suicidaires ou est inquiète pour quelqu'un qui en a des idées suicidaires, là, c'est une conversation qu'on a avec elle. C'est pas un questionnaire vrai, faux, oui, non. On n'est vraiment pas là-dedans. C'est une belle conversation. C'est sûr que nous, on a des thèmes qu'on veut explorer pour avoir une meilleure idée, dans le fond, de la situation de la personne. Une fois qu'on s'est fait une tête à travers cette conversation-là, on va arriver avec des pistes d'aide plus concrètes. On va donner des ressources. On va vraiment prendre le temps de voir qu'est-ce qui existe déjà aussi autour de la personne. Des fois, il y a des gens que ça va tellement mal qui ont oublié, mettons, qu'il y avait un suivi avec une TS ou qu'il y avait quelque chose qui existait à l'école ou un programme d'aide aux employés. Ça va tellement pas bien qu'ils oublient que ces ressources-là existent. Fait que nous, en se faisant une tête, en explorant ces différents thèmes-là avec la personne dans le cadre de cette belle conversation-là, mais on on réussit vraiment à ressortir de beaucoup de positifs et beaucoup de choses qui peuvent l'aider. Mm-hmm. Après ça, on met ça en highlight un peu, là. On va mettre ça sur le spot, puis on va réussir à aider la personne du mieux qu'on peut, là.
Quelle est l'efficacité de ce système téléphonique auprès des personnes qui ont des idées suicidaires? On imagine que c'est compliqué pour ces personnes-là d'appeler un numéro, demander de l'aide. À quel point c'est efficace?
Bien, c'est dur de parler d'efficacité, pour vrai. Oui. Là.
Nous, on n'est pas dans l'efficacité. On est plus à regarder. Premièrement, à chaque année, on a de plus en plus d'appels. Est-ce que c'est parce que la promotion de la ligne est plus présente? Est-ce que les gens prennent plus la peine d'aller chercher de l'aide? C'est difficile, quand on travaille dans le volet social, de mettre des statistiques sur le taux de réussite. On n'est pas dans le taux de réussite, mais beaucoup plus dans les gens connaissent notre ligne, osent appeler. Puis là, on parle de la ligne, mais on pourrait parler, puis on en parlera à la fin des autres coordonnées, mais ils peuvent aussi clavarder avec nous, ils peuvent aussi texter avec nous. Donc, nous, on met en place des moyens de communiquer la détresse, parce que c'est un peu ça. Tu vas pas bien ou quelqu'un dans ton entourage va pas bien, on te donne l'opportunité de nous appeler, on te donne l'opportunité de nous écrire, de texter avec nous. Donc, on maximise les moyens de nous rejoindre et on peut dire quand même que si on parle d'envoi d'urgence, là, parce qu'on envoie des fois les urgences, on travaille avec les urgences quand on voit qu'on est très inquiet pour quelqu'un, si on prend 100 appels par jour, ben on va envoyer maximum 2 envois d'urgence par jour. Ça me laisse présager qu'on a réussi à descendre la détresse ou réduire la détresse, où on a assuré un filet de sécurité pour la personne auprès de 98 personnes dans cette journée-là. Nous, c'est 35 000 interventions par année qu'on fait chez nous, à Montréal, et je veux dire, le taux d'envoi est 4 % d'appels d'urgence. Donc, tout le reste, c'est grâce à l'équipe d'intervenants, grâce à l'équipe de gens qui sont formés, qui sont spécialisés en prévention du suicide, qu'on réduit les suicides à Montréal, évidemment.
Parce que donc, il y a les appels d'urgence et puis après, il y a les relances téléphoniques. C'est deux services que vous proposez aux personnes en détresse.
Tout à fait. On leur dit, est-ce que ça te va demain? Je suis un peu inquiet pour toi. Mmh. On a mis en place le filet de sécurité. Est-ce que ça te va si demain je te rappelle? Demain ou après-demain, habituellement, là, c'est dans un délai de 72 heures. Pour les hauts risques, on va appeler plus rapidement. Excusez-moi. Pour les hauts risques, on va appeler un peu plus rapidement, donc dans les 24 heures. Mais on propose ça. Puis à un moment donné, quand on sent là, que les ressources qu'on a référées, quand on sent que la personne est en confiance, qu'elle a du soutien, qu'elle a, je dirais, son réseau ou son filet de sécurité solide, là, après ça, on se retire. Mais on dit toujours, écoute, n'hésite jamais à nous rappeler. Il n'y a pas de maximum de temps. Nous, on y va avec l'individu devant nous, puis on travaille avec son besoin et sa capacité et son rythme. Tout est une question de rythme aussi. Il y en a que ça va être « j'ai appelé, ça m'a fait du bien, c'est terminé, je ne vous rappelle plus, rappelez-moi pas, tout est réglé. » Puis nous, on respecte ça, ce rythme-là. T'sais. Puis si on est inquiet, on va le dire « moi, je suis un peu inquiète pour toi, tu me permets-tu de te rappeler demain? » Alors, on est vraiment là, disposé à répondre aux personnes avec leurs besoins et leur rythme.
Tu parlais d'efficacité, t'sais, puis une des choses qui est intéressante à savoir, c'est que quand les gens appellent, c'est rare qu'ils attendent. Ouais. Quand ils appellent au 1-866, appelle, 277-3553. Les gens, dans le fond, au début, c'est une machine qui va dire anglais, français, mais après ça, une fois que ce choix-là il est fait, en général, les gens vont parler avec quelqu'un. Un petit peu plus long, par contre, par texto puis clavardage, mais en termes d'efficacité là, de réponse de notre part, on en est fiers. On aimerait ça le maintenir puis avoir peut-être d'autres subventions ou d'autres je ne sais pas quoi.
Le message est passé.
Mais ça reste que c'est quelque chose qui est important d'avoir cette efficacité là au niveau de l'accessibilité de nos services. Puis en ce moment, ça se passe quand même bien. On est super contents. On a une équipe formidable. D'ailleurs, s'ils sont à l'écoute, on les salue.
Oui, bien sûr. On peut quand même dire que depuis la pandémie, il y a eu quand même une augmentation fulgurante des appels.
Oui, ça, vous le notez sur votre site Internet.
C'est assez important. On parle de entre 40 et 50 % d'augmentation depuis le 2020. Puis là, on parlait des subventions, mais les subventions, ça ne suit pas ça. Fait que c'est sûr et certain que le taux de réponse est encore très bon pour le nombre de personnes qui peuvent y répondre, mais il y a quand même une diminution sur la capacité de répondre à tout le monde aussi rapidement, puis pas parce qu'on ne veut pas, parce qu'on n'a pas la capacité. Mm-hmm. Alors ça, c'est important de le mentionner. C'est vraiment une question de capacité parce qu'il y a la volonté, elle est présente. Moi, je connais une équipe engagée qui veulent tellement soutenir les personnes qui font de la prévention du suicide parce qu'ils en font leur mission personnelle. Alors, tu sais, ça, c'est un enjeu majeur, puis on le nomme sur notre site web, mais inquiétez-vous pas qu'on travaille très fort avec les ministères, qu'on travaille très fort avec les partenaires pour dire, écoutez, c'est un enjeu important, la santé mentale, on en parle partout. La promotion de la ligne 1866, on l'a fait, là, je sais pas si vous regardez un peu les émissions à TVA, à Radio-Canada, on en fait la promotion mur à mur de la 1866 appel. Mais c'est nous qui répondons à ces appels-là. Mm-hmm. Et la détresse est présente. On voit l'augmentation du coût de la vie. On voit que les gens ont de la difficulté à se loger de façon convenable et abordable. Alors, ces signes de détresse-là augmentent chez les personnes. Ils nous appellent. Puis nous, il faut être en mesure de répondre mm-hmm. à ces gens-là. Si on en fait la promotion, il faut être en mesure de répondre. Alors ça, c'est un enjeu qui est là, qui est présent, puis qu'on continue à parler avec les ministères et les décideurs pour dire, écoutez, on veut répondre à ces gens-là. Puis des fois, juste d'en parler, de ventiler, de trouver des ressources qui peuvent nous soutenir, que ce soit un comité logement, que ce soit une soupe populaire, peu importe le groupe communautaire qui peut soutenir cette personne-là, ça va réduire mmh. Les signes de détresse.
Et pour finir, quelles sont les ressources pour vous contacter, que ce soit par curiosité ou les personnes qui sont en détresse, des personnes qui sont proches de ces personnes?
Il y a des groupes chez nous. Alors, vous pouvez venir aussi en groupe pour les personnes qui sont endeuillées par suicide. Alors, ça aussi, ça existe. Nous, on part de la prévention à la postvention, passant par l'intervention. Oui. Je laisserai mon collègue vous parler des trois numéros ou endroits que vous pouvez appeler pour nous rejoindre.
Bien, il y a évidemment le 866 appel, le 277-3553, où est-ce que vous pouvez nous contacter. Il y a le suicide.ca, ça c'est un site qui a été fait avec notre collaboration, là, entre autres, puis c'est super bien fait, c'est user-friendly qu'ils disent. Là. Tu sais, il y a une section pour les gens qui ont des idées suicidaires, il y a une section pour les proches, et il y a une autre section pour les gens qui sont endeuillés par suicide. Il y a vraiment beaucoup d'informations là-dedans, et puis c'est bien fait. Puis on peut clavarder via le suicide.ca, puis sinon par texto. Donc, dans la barre là, de numéro de téléphone, au lieu de chercher votre contact, vous écrivez 535353, donc 3 fois 53, là, et vous allez pouvoir texter, dans le fond, un intervenant ou une intervenante. C'est bien fait. Comme je vous disais, par contre, un peu plus facile d'accès là, encore là, au niveau du téléphone. Sinon, ben, tu sais, moi, un petit coup de cœur quand même pour Interlink, qui font super bel job. Tel jeune aussi, qui font un bon travail. Fait qu'un petit props là, aussi au travail qui est fait par d'autres lignes d'intervention comme eux. Là, c'est vraiment bien fait.
Très bien. Les ressources sont notées. Puis votre site internet, c'est cpsmontréal.ca. Merci pour le travail que vous réalisez. Et puis
merci.
Bonne continuation.
Merci beaucoup.
On continue sur CIBL avec la chronique de Béatrice Grandet.
CIBL 105 Montréal.
Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 $ en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
Ici Maude Desbois. À l'effet durable, on pose un regard vaste sur les enjeux environnementaux, la transition écologique, les défis de société et le développement durable par le biais d'entrevues et de chroniques qui s'appuient sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h, sur les ondes de CIBL 101.5.
Salut, ici Philippe Papineau et je suis à la barre de l'émission Francophile tous les mercredis de 10h à midi. Francophile, c'est 2 heures de bonne musique en français, un pied dans le son du moment et l'autre un peu plus nostalgique. À tout de suite.
CIBL 101.5 Montréal.
On continue avec Béatrice Grandet, notre chroniqueuse tout-terrain, qui vient nous présenter un reportage. Bonjour Béatrice.
Bonjour Charline, comment vas-tu?
Eh bien, ça va très bien. Et toi, j'ai l'impression que ça va aussi parce que tu as suivi ton colloque de 23 ans, qui est leader du mouvement indépendantiste chez les jeunes québécois. Oui. Et tu l'as suivi dans un rassemblement.
C'est ça. Donc, je suis arrivée dans cette colloque il y a 2 mois. Et en fait, j'ai découvert que j'habitais dans une maison complètement souverainiste, aux 1000 drapeaux québécois un peu partout. On a des stickers qui disent en français, ici, c'est non négociable. Et puis, donc, mes colocs indépendantistes, dont Alex Valiquette, qui a fêté ce week-end 23 ans. Ça veut dire que depuis qu'il s'engage, ce monsieur a 20 ans. Et voilà, figure de proue du mouvement indépendantiste québécois. Et en fait, donc en 2 mois, j'ai quand même eu l'occasion de, tu sais, de l'interviewer. J'ai laissé un peu traîner le micro comme ça autour de la
tu
table.
Tu fais ta journaliste même en coloc.
C'est ça, ouais. C'est ça, mais avec leur consentement, hein, toujours. Okay. Et puis, donc, vous allez voir, dans ce reportage, j'ai fait comme un petit peu un mash-up des conversations que j'ai eues avec Alex. Et puis après, donc, on part sur la route, on part à Québec pour ce week-end, ce fameux week-end du 2 mars. Donc, c'était un rassemblement du mouvement Oui Québec. Et je rappelle, c'est un mouvement qui est, tu sais, qui n'a pas d'affiliation à des partis politiques.
Ça n'a rien à voir avec le Parti québécois, donc.
Non, voilà. C'est un mouvement qui se veut rassembleur, mais tous autour de la question de l'indépendance et de la souveraineté du Québec.
Très bien.
Je vous propose qu'on découvre ça.
On écoute ton reportage et puis on revient en studio.
Ça a l'air d'être le fun.
Ouais. Ça, tu vois,
c'était où?
Il y a 4 ans, ça, c'était à l'UQAM. Puis on a juste comme réanimé de quoi que les gens pensaient qu'il était mort.
T'as commencé comment, toi, tout ça?
Je militais au début pour l'environnement en 2019. J'étais super impliqué dans le mouvement environnemental. J'avais full aidé dans la mobilisation, l'énorme manifestation à Montréal. 500 000. C'était la plus grosse manifestation de l'histoire du Québec. Il y avait Greta Thunberg qui était venue.
Ah ouais.
Puis c'était une manif internationale. Puis après ça, c'était comme... On s'attendait comme à des changements majeurs de la part du gouvernement. Il n'y a comme rien eu. Fait que c'était vraiment démobilisant parce qu'on a travaillé là-dessus pendant des mois. Puis là, c'est là que j'ai commencé à militer pour l'indépendance. Parce que j'étais comme, il va falloir qu'il y ait un projet, tu sais, que ça dépasse, tu sais, quelque chose une politique gouvernementale, mais que ça implique comme la refondation de notre société, puis que ça s'inscrive dans une nouvelle constitution, tu sais, un gros changement de paradigme. Fait que c'est ça. Puis avant, on n'était pas tant... Il n'y avait pas beaucoup de mobilisation jeunesse, tu sais. Les gens... ils disaient, ah, les jeunes ne sont pas souverainistes, les jeunes s'en calissent, ils n'aiment pas ça, ils s'en foutent. Mais moi, j'étais entouré de jeunes qui étaient pour l'indépendance, puis j'étais comme, mais il semble que ça fait pas de sens.
Salut! T'es sur la boîte vocale du Québec. Je suis occupée à devenir un pays en ce moment, mais laisse-moi un message, puis je pense à ça. Piiiip!
Allô, c'est moi.
Allô, mon Québec. Je sais pas trop si je me souviens, mais je pense que je me souviens. Toi, tu te souviens-tu? Je vais essayer de me souvenir, parce qu'il y a bien des belles choses à se souvenir de toi.
Ah ben salut, ici Loïc La France. Ça fait un bon deux ans facile là, qu'Alex nous a approché pour organiser l'événement. Puis je voulais juste te dire, Québec, que tu vas être Québec, tu vas être un esti de beau pays, puis à soi, ça va être un esti de gros partout. Let's go!
Vous devez devenir un pays. Nous devons être un Québec fort et indépendant, où tous se sont accueillis et où les choses les plus importantes en prime abord du reste sont respectés.
C'est le meilleur pays du monde, man. Faites que c'est un pays, s'il te plaît. Québec libre, man.
Le monde qu'on mobilise à travers les rassemblements renouveaux, c'est surtout genre des jeunes qui sont cégep, université, qui ont un intérêt pour la culture québécoise, pour la musique qui se fait ici. On en retrouve de plein de différents milieux, mais aussi des jeunes de différents partis politiques qui sont soit à Québec solidaire, au Parti québécois, ou qui sont juste pas dans des partis politiques, quoi. Et c'est ça le but, c'est d'aller parler, à rejoindre des jeunes, surtout des jeunes qui n'en ont jamais entendu parler, pour qu'ils se reconnaissent dans ce projet-là, qu'ils en entendent parler. Mais en ce moment, le but, c'est de déjà commencer à jaser, puis de ne pas attendre l'indépendance pour décider ce qu'on fait après nécessairement, mais déjà avoir une idée de ce qu'on a envie de faire comme projet de société. Fait que c'est à voir, mais c'est en faisant des événements de même un peu partout, on est capable de prendre le pouls du désir des citoyens dans les différents endroits du Québec. Ça va être ici, notre affaire, mais là, j'ai passé...
Ayo, hey, voilà, enchanté!
Bonjour, Béatrice!
Béatrice, moi, c'est Loïc. Il y a 400 intéressés sur l'événement, il y a 120 personnes qui peuvent rentrer techniquement, tu sais. Fait que je pense qu'il va y avoir de la gestion à faire à ce niveau-là, mais, tu sais, on est super contents que le monde soit, soit craqués de base là, pour faire ça. Là. On est une génération qui n'a pas vécu. Ben, y a beaucoup de gens qui vont venir ici ce soir qui n'ont pas vécu aucun des deux référendums. T'sais. Puis ce qui est le fun par rapport à ça, c'est qu'on part un peu à zéro par rapport à notre idée de c'est quoi la souveraineté. Fait que ça nous permet de se l'approprier, je pense, en y incluant de l'art puis en rafraîchissant l'idée de c'est quoi la souveraineté puis de la rendre accessible puis de la démocratiser. Je pense que d'utiliser l'art pour faire ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien là, quand même. Là.
En fait, Loïc puis moi, on forme un couple. C'est nous qui avons organisé ça ensemble. La raison, je pense, pourquoi je me suis embarquée dans tout ça, c'est que moi, je faisais des TikTok pendant un bout. Puis des fois, je parlais de l'indépendance. Puis il y avait comme une gang de jeunes indépendantistes qui étaient venus me chercher pour savoir si je voulais faire partie d'un compte qui faisait juste des TikTok sur ce sujet-là. Puis je pense que c'est au travers de tout ça un peu que Alex m'a vu. Tu sais, j'ai grandi en étant en mode... J'adore le Canada parce qu'on gagne aux Olympiques, là. C'était comme ça ma réflexion, vraiment, souvent. T'sais. Mais comme pour vrai, t'sais, ayant pas vécu le référendum, ayant pas vécu l'espèce d'engouement autour du Québec, ça n'a jamais été vraiment une question que j'avais à cœur ou que je connaissais en général. Mais c'est au travers, je pense, de la culture puis d'apprendre à connaître un petit peu plus l'histoire du Québec puis d'où est-ce que ça vient que nous, on parle français puis que le reste du Canada parle anglais, des choses comme ça, que... Je me suis peu à peu intéressée à ça, mais c'est plus fin adolescence, début âge adulte là, que j'ai vraiment plus commencé à m'intéresser à la question.
Salut tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? OK, bonsoir et bienvenue au premier événement du renouveau du Oui Québec à Québec! Je m'appelle Loïc Lafrance.
Et je m'appelle Marianne Blouin. On va vous présenter plusieurs choses qu'on a en commun puis qu'on pense que vous avez aussi en commun avec nous. On veut un Québec qui est inclusif.
On veut un Québec qui est non-violent.
Ouais! Féministe.
Ouais! Bruyant.
Ouais! Résilient.
Ouais! Woke. Ouais!
Libre.
On lance le bal avec le autre Alex Valiquette des Oui Québec. Bonsoir. Hey, merci d'être là. J'ai pas préparé de discours, je voulais juste venir vous présenter un peu c'est quoi les Oui Québec, qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Dans le fond, les Oui Québec, ben, c'est un acronyme pour Organisation Unie pour l'Indépendance. On est une organisation de la société civile, on est non-partisan. Notre objectif, c'est de mobiliser la société civile, mobiliser les citoyens et les citoyennes à travers le Québec. Parce que le projet d'indépendance, c'est pas un projet qui appartient seulement à des formations politiques. C'est un projet qui est profondément populaire, puis on doit l'incarner, on doit le porter.
Guy Lafleur, Louis-José Houde, Yvon Deschamps, Jean Béliveau, Chris Boucher, Bénédicte Mathurin, Will Prosper, Luc Picard, Léane Labrézard, Liz Plank, Léonard Cohen, Céline Dion, René Lévesque. Que je répondrai la prochaine fois qu'on ose me dire que la culture québécoise, c'est juste la poutine.
J'avais jamais entendu parler des Oui Québec avant, puis là, ben... J'ai été recrutée récemment, c'est ça. On est au Saguenay, on a commencé un comité indépendantiste dans notre cégep.
Oui, j'ai fondé le premier comité souverainiste au cégep de Chicoutimi.
Exactement.
On est beaucoup suivis, mais c'est surtout de derrière parce que le cégep ne peut pas vraiment
être partisan,
donc ça reste surtout dans la non-partisanerie, mais on voit que même la direction...
Ils nous supportent vraiment, puis on a vraiment un bon support de la part du personnel également, fait que ça aide beaucoup.
Ils trouvent ça beau voir la jeunesse.
Ils nous poussent vers toutes nos idées, nos projets.
Puis sinon, au côté des élèves, il y en a quand même beaucoup qui embarquent. On est peut-être à peu près 20 maintenant, puis ça, c'est quand même beaucoup, mais on est quand même beaucoup de souverainistes là, à mon cégep, donc c'est une bonne chose pour nous. Ouais. Ça fait du bien de voir ça, là, de sensibiliser le plus de personnes possible. Puis, ça, on s'en va vers un bel avenir.
C'est ça, s'il pourrait avoir une relève, je vois que les jeunes embarquent. Ils ont un projet, puis ça prend ça absolument. Sans ça, le Québec, on va le perdre, là. Il faut que les jeunes embarquent, puis l'idée est bonne, là. Unis, peu importe le parti politique, il faut s'unir, puis faire devenir souverain, ça prend ça absolument.
Salut Québec, nos territoires, riches et grandes, nobles valeurs. Tu nous verras, tenace et sage, par les enfants, agirant avec ardeur. Toujours debout, du grand vaillant fidèle, nous marcherons droit devant.
Bon, bah, c'est un reportage où il y a de l'ambiance. Tout d'abord, c'était comment de tourner, de filmer comme ça dans un tel lieu avec des jeunes en ébullition?
Mais qu'il fallait être là. Mm-hmm. Tu sais, je sentais que c'était pas un événement anodin. J'en avais des frissons, j'en avais une boule au ventre. Tu sais, la sensation d'être là dans un événement qui marque l'histoire.
Mm-hmm. Et il y aura une suite à ce reportage?
Ben, j'espère.
Pour le référendum qui s'en vient?
J'espère. Alors, selon Alex, mon colloque, un référendum d'ici... Quelle année il m'avait dit? D'ici 2030, je pense.
C'est loin, mais c'est quand même assez proche, au final.
Mais oui.
On s'en approche. Bon, bah, très bien. On se revoit dans 6 ans, alors, pour ce référendum.
Ans.
Merci beaucoup, Béatrice, pour ce reportage. Et puis, on se retrouve bientôt pour un autre sujet.
Avec plaisir. Bonne journée à tous.
On continue sur CIBL avec la chronique de Flore sur les enjeux d'immigration.
Avec ma face de game over, le cordon du corps qui traînait dans le slot. Ça prend un ticket de chose. Ok, pompier, fait que suce ma hose. Down, down, centre vide, l'espoir est une maladie. Le docteur avait des faux papiers, me dit je te paye une ride jusqu'au paradis. Aller au ciel, j'suis un peu sceptique. J'm'en vais aller là quand j'aurai su. Qu'est-ce que le bon Dieu y a contre l'Afrique? M'en mettre un homme, m'en mettre un homme, m'en mettre un homme là-dessus. Y'a tellement de police, mes amis. Ça va prendre des bandits ben vite. J'en vais rouler l'économie. J'en vais fronter de la dynamite. Le gérant de banque, pas de bonne humeur. No way qui dit, t'es pas assez dû. On t'a envoyé notre collecteur. Peux-tu ben me dire qu'est-ce qu'il est devenu? Pour moi, c'est fait manger par la souffleuse ou par le gars qui est de l'autre bord de la rue. Toute cette affaire est nébuleuse. M'en mettre un homme, m'en mettre un homme, m'en mettre un homme là-dessus. On est monté à Outremont. Eux les gratte-ciels, nous les gratteux. Leur expliquer qu'il n'y a pas de honte à s'amuser avec son pèteux. On a essayé par tous les trous. Y'a rien à faire, sont trop blasés. On va essayer le tout pour le tout. On va aller les sodomiser. Ha! Ils se pensent couverts par l'assurance. Mais entre nous autres, ils vont être déçus. Y'aura pas de perte de jouissance. M'en mettre un homme, m'en mettre un homme, m'en mettre un homme là-dessus. J'ai le sentiment de rater ma vie. Même mon chien a fait faillite. J'vais voir un gars qui a réussi. Condo le jour, condon la nuit, il dit je frotte ma femme et je flatte mon char. J'aime mon pays, mon voisin, je l'haïs. Je l'écoutais en me disant Richard, une chance que la drogue t'a sauvé la vie. C'est-tu pour ça que les gens honnêtes qui suivent la loi, le nez dans le cul, ils rentrent dedans pour disparaître. M'en mettre un homme, m'en mettre un homme, m'en mettre un homme là-dessus. J'suis-tu un homme, les boubés, un bum perdu.
Vous écoutiez Corias, m'a mettre un homme là-dessus, et je reçois Flore Morel de Westgaver du collectif Bienvenue pour une chronique sur les enjeux d'immigration. Bonjour Flore.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Eh bien avec plaisir, et aujourd'hui le sujet de ta chronique c'est le chemin Roxham. Pourquoi en parler aujourd'hui tout d'abord ?
Alors, pourquoi parler du chemin Roxham? C'est que ça fait juste un an, hier, le 25 mars 2023, que ce célèbre chemin a fermé avec la révision de l'entente sur les tiers pays sud qui a profondément impacté la ville, l'accès à la ville au Canada. Mmh. Et puis, avec l'arrivée de la journée des droits des réfugiés ce 4 avril, je trouvais que ça fait sens d'en parler.
Et en effet, merci beaucoup pour cette coordination dans l'actualité. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce qu'est le chemin Roxham?
Oui, le chemin Roxham, c'était un point d'entrée irrégulier sur la frontière canado-américaine. Donc jusqu'en mars 2023, la grande majorité, plus des trois quarts des passages des personnes de demande d'asile se faisaient au chemin Roxham, près de Saint-Bernard-de-la-Colle. Et ce chemin était une brèche dans l'accord sur les tiers pays sûrs conclu entre les États-Unis et le Canada.
Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette entente, en quoi elle consiste ?
Oui, c'est une entente qui a été conclue en 2004 entre les deux pays, qui définit les règles entourant les demandes d'asile entre les deux pays. Donc les gens qui fuient leur pays en quête de protection à l'étranger sont tenus de présenter leur demande dans le premier pays où ils arrivent, donc soit le Canada, soit les États-Unis. Et le but en fait est d'empêcher la duplication des demandes. Donc une personne qui a mis le pied aux États-Unis sera refoulée au poste frontalier canadien si elle veut y demander l'asile et vice versa. Mais en fait, avant mars 2023, ce texte ne visait pas les personnes qui empruntaient des passages jugés irréguliers comme Roxham. Donc, comme les régimes de protection sont assez différents entre les deux pays, une personne qui courait le risque d'être refusée aux États-Unis ou qui avait été refusée pouvait faire entendre sa demande de protection dans un nouveau pays qui reconnaît des motifs de protection différents.
Et quelles sont les critiques qu'on peut émettre vis-à-vis de cette révision de l'entente, par exemple par des organismes comme le tien, comme le collectif Bienvenue ?
En fait, la révision de l'entente a été très critiquée. Parce qu'en fait, en révisant cette entente, le point d'entrée a été fermé. Donc l'objectif était vraiment de diminuer le nombre de demandes d'asile au Canada, en particulier au Québec, pour réduire aussi la tension politique. Et donc, avec la révision, toute personne se présentant à un point d'entrée, donc terrestre, serait inéligible à l'asile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je disais, les systèmes de protection des réfugiés aux États-Unis est vraiment très différent du système canadien et expose les demandeurs d'asile à énormément d'abus de droit. Donc, que ce soit en termes d'accès à des services essentiels comme la santé, risque d'incarcération, de refoulement. Puis en particulier pour les femmes demandeuses d'asile, en vue de la régression, par exemple, des droits des femmes dans de nombreux États, quand je parle par rapport à l'avortement, par exemple, mais aussi du fait que les États-Unis rejettent depuis longtemps les demandes d'asile de toutes personnes qui fuient les persécutions fondées sur le genre. Et au Canada, ces demandes peuvent être reconnues. Donc voilà, il y a vraiment cette critique. Et donc, par exemple, le Canadian Council for Refugees et Amnesty International ont d'ailleurs en juin demandé à la Cour suprême de se prononcer sur la constitutionnalité de l'entente et en contestant vraiment la désignation des pays des États-Unis comme un pays sûr. Et d'ailleurs, la Cour s'est pas encore prononcée sur les arguments relatifs à l'égalité devant la loi.
Et donc c'est possible en soi que le chemin Roxham rouvre un jour ?
Je ne saurais pas me prononcer. Okay. Voilà, on n'a pas encore la décision de la Cour suprême.
D'accord. Ok, très bien. Quel est le bilan un an après la fermeture ? Les objectifs étaient de réduire les demandes d'asile au Canada. Est-ce que ça a été atteint ?
Alors, un an après, non, ça n'a pas diminué l'arrivée des demandes d'asile. On voit qu'aujourd'hui, c'est 65 000 personnes qui ont demandé l'asile au Québec en 2023, bien plus qu'en 2022. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on... On remarque qu'avec la fermeture du chemin Roxane, ça a rendu en fait la ville plus criminalisée, plus discriminant et plus précarisant. Parce que de manière générale, en fait, fermer les frontières, le fait de dresser des murs, militariser les frontières, n'a jamais arrêté la migration. C'est un fantasme. On le voit à la frontière mexico-américaine, on le voit à la frontière de l'Union européenne. Ça n'a jamais dissuadé les personnes qui fuient un danger de quitter leur pays et de chercher la sécurité. Le fait de bloquer la mobilité humaine, comme ici, de fermer ce chemin d'entrée, en fait, représente avant tout un coût énorme, tant humain que financier, hein. Les murs, les processus de renvoi, détention, tout ça. Et puis, fermer un chemin, en fait, ça signifie, ça contraint les personnes immigrantes à s'enfrayer un chemin plus loin, plus long, plus dangereux. Et les demandeurs d'asile passés par les États-Unis sont contraints d'utiliser des moyens criminalisés comme des réseaux de passeurs pour pouvoir rentrer au Canada et demander la protection.
Mmh. Donc au final, l'accès au droit d'asile au Canada est compromis à cause de cette fermeture, mais ça n'empêche pas pour autant l'arrivée des demandeurs d'asile.
Mais oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il faut savoir que la majorité des personnes qui rentraient par Roxham n'avaient pas réellement d'autres options faute de files d'attente, de programmes humanitaires et de programmes d'immigration destinés à ces populations. Et donc la fermeture du chemin agit un peu comme un filtre pour les plus vulnérables qui ne sont pas en mesure de passer par les autres voies d'entrée. Mm-hmm. Puisqu'on constate que depuis la fermeture de cette route, ça a redirigé les demandes d'asile vers les aéroports. On voit qu'il y a deux fois plus de personnes qui font leur demande d'asile à l'aéroport. Mm. Quand on compare les chiffres entre janvier 2024 et janvier 2023. Alors, sauf que cette porte d'entrée-là, cette porte d'entrée pour demander l'asile est discriminante, elle n'est pas accessible à tous, puisque la grande majorité des demandeurs d'asile sont des ressortissants de pays qui ne sont pas éligibles à l'AVE. Ils doivent demander un visa pour prendre l'avion. Mais ces conditions de visa sont excluantes, sont discriminatoires, notamment au niveau de la classe sociale. Mm-hmm. Et donc, ces personnes les plus vulnérables qui n'ont pas accès à des visas d'entrée sont dès lors soit n'ont pas accès à l'asile au Canada, soit sont condamnés à emprunter des chemins criminalisés pour accéder à la protection.
Mmh, très bien. Aujourd'hui, pourquoi c'est essentiel de continuer à en parler ? On a compris tous les problèmes que pouvait poser la fermeture. Qu'est-ce qui pourrait vous motiver ? Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui de continuer à diffuser l'idée du problème de la fermeture du chemin Roxham ?
Mais je pense que c'est essentiel de continuer à en parler parce que la fermeture du chemin Roxham, comme toutes les récentes décisions politiques en termes d'immigration, comme l'imposition de visas pour les personnes mexicaines, le combat acharné du gouvernement du Québec pour interdire l'accès aux garderies subventionnées pour les demandeurs d'asile, par exemple, sont nourris et nourrissent un discours global anti-immigration. Et c'est un discours qui est énormément relayé dans les médias, qui est nourri qui est nourrie par des peurs, par ces stéréotypes d'une masse menaçante, sans individualité au final. Et c'est ça, moi je pense que cette fermeture, c'est vraiment appuyé sur des peurs et des menaces au lieu de faits. Et ça contribue à ce récit médiatique hostile qui érode vraiment le soutien public à la protection des personnes réfugiées. Et c'est ça, cet anniversaire de la fermeture du chemin, et puis en prévision de la journée des droits des réfugiés, je pense que c'est essentiel de rappeler que la demande d'asile est un droit humain avant tout et que les pays comme le Canada sont capables d'offrir des conditions de sécurité et de vie digne et doivent mettre en œuvre des politiques publiques qui garantissent un transit digne à travers les frontières sans mettre en danger la vie des personnes et puis surtout pour permettre à tous et à toutes toutes celles qui fuient le danger ou la persécution de demander la protection.
Ouais, très bien. Au collectif Bienvenue, est-ce que tout ce contexte de la fermeture vous impacte ? Est-ce que tu vois les conséquences au quotidien ?
Mais oui, puisqu'on voit en fait qu'on a vu ces derniers mois à une hausse des demandes d'asile qui sont demandées à l'interne. C'est des demandes d'asile qui sont beaucoup plus précarisantes. Donc les personnes, par exemple, qui franchissent illégalement hors des points d'entrée terrestres, la frontière canadienne, peuvent demander l'asile si elles ne sont pas détectées pendant 14 jours. Mmh. Et donc ça, ce qui pousse déjà les demandeurs d'asile à se mettre dans des situations dangereuses, surtout l'hiver, pour ne pas être vus, et donc peuvent demander l'asile au bureau intérieur. Donc on a vu une hausse de ces demandes-là. Et ces demandes sont comme les demandes qui peuvent être déposées à l'aéroport, sauf qu'elles sont vraiment plus précarisantes, car l'accès aux ressources et aux droits est plus long, plus limité, plus compliqué, parce que toutes les tous les demandeurs d'asile ont accès à des services essentiels par le gouvernement, fournis par le gouvernement du Québec, comme un hébergement, une aide financière de dernier recours, une aide juridique qui est essentielle pour demander, pour préparer sa demande d'asile, des services sociaux, l'accès aux soins de santé, etc. Mais les personnes qui demandent l'asile une fois sur le territoire, donc au bureau interne d'IRCC, pour avoir accès à ces droits et services, ils doivent déjà envoyer leur fondement de l'asile, qui est en fait le document le plus important de la procédure d'asile, qui expose les motifs de la demande. Et c'est sur base de ça que le commissaire va décider s'il octroie ou pas le statut de réfugié. Et donc, les personnes, pour les demandes internes, les personnes doivent envoyer donc, ce document, ce fondement de l'asile, pour pouvoir accéder à tous ces droits et services. Donc, à leur arrivée, ils sont dans une position qui est déjà très précaire et vulnérable et qui exige la soumission rapide de ces demandes sans bénéficier des aides normalement allouées, comme par exemple une aide juridique. Donc ici, on se retrouve au collectif à devoir assister, ben, évidemment, dans l'urgence et devoir accompagner ces personnes-là pour pouvoir soumettre très très rapidement leur demande.
Mmh, très bien. Bon, bah, on continuera de suivre la situation avec tes chroniques. Merci beaucoup, Flore. On se retrouve bientôt pour un prochain sujet. Et puis, bonne continuation au collectif Bienvenue.
Un plus grand merci pour l'invitation.
À bientôt. On continue sur CIBL avec Bolduc Tout Croche qui chante Aider. Et puis, on se retrouve pour la clôture de l'émission.
Thank you.
Et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités et nos chroniqueuses du jour d'être passées à l'émission, ainsi que Mickaël Asselin pour la mise en onde et les choix musicaux. Demain, on reçoit une nouvelle chroniqueuse avec Amélie Eggerstoffer, pardon, et en entrevue, ce sera le chanteur Tété de passage à Montréal. Alors restez branchés sur CIBL pour suivre ce beau programme. Et puis n'oubliez pas que l'émission est également disponible en balado sur les plateformes, sur notre site web. Nous, on se quitte avec Alex Pic qui interprète Filante. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une prochaine émission.
Comptez les filantes, suivi leur trajectoire. J'ai fait brûler les banques, fait tomber les pouvoirs. J'ai fait de la maison quartier général, un endroit où tout le monde s'assoit à la table. Et je te donnerai la première fleur de la terre. Comme un homme après la guerre. Thank you.
Ouais, ouais, ouais. Celle-là, c'est l'international reggae ragada. Vision 007, the ultimate version. Le sound system balance la sauce. Les pieds se chaussent et se déchaussent. Les hanches se balancent et se déhanchent. En noir et blanc sur la piste de danse. Les heures d'un monde de calmer. C'est parti pour la danse de la paix. Ce soir ta vie est dans le sound system. Demain tu auras le temps pour tes problèmes. Ce soir ta vie est dans le sound system. Demain tu auras le temps pour tes problèmes. Le MC System balance sa prose. Il est temps pour toi de faire la pause. Même si je sais que tout n'est pas rose, tout arrive à